Bonsoir. Sécurité dans l'Est de la RDC. Les chefs d'état-major de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, réunis le 9 février dernier à Nairobi, ont proposé que le M23 entame son retrait à partir du 28 février pour une durée d'un mois. La réunion de Nairobi a aussi décidé d'un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties et le retrait de tous les groupes armés locaux et étrangers. Par ailleurs, les chefs d'état-major de l'EAC ont proposé une attribution des zones d'opération aux troupes burundaises, kenyanes, sud-soudanaises et ougandaises dans les territoires occupés par le M23. Réagissant sur ce plan de déploiement de la force de l'EAC, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, a affirmé lundi 13 février que le gouvernement va minutieusement analyser ce document et donner sa position. D'après lui, tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, du retour des Congolais à leur domicile ne sera pas accepté, a prévenu Christophe Lutundula. Que pensez-vous des décisions prises par les chefs d'état-major de l'EAC et la réaction du gouvernement congolais? Nous en parlons ce soir avec le professeur Nissé Mouhendi. Il est professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Il est aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Professeur Nissé Mouhendi, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Chobera Genonga, professeur à l'université de Kisangani et l'université catholique du Congo. Il est spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Professeur Chobera Genonga, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Rigel Miviri, il est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Maître Rigel Miviri, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Goma, en Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, la réunion des chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC qui s'est tenue à Nairobi le 9 février a décidé d'un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties et le retrait de tous les groupes armés locaux et étrangers. Dans un document parvenu aux médias dont Radio Okapi, il est indiqué que ce retrait doit s'accompagner d'un dialogue et que les différents responsables de l'EAC se réunissent d'urgence pour examiner le délai du retrait du M23, la posture de la force et les limites des opérations. Notre précision avec vous, Peléki Pelamondo.
Le communiqué publié à cette occasion pour sanctionner les travaux contient entre autres recommandations un cessez-le-feu inconditionnel entre belligérants, une surveillance de l'EAC et des vérifications distinctes du mécanisme de vérification conjoint élargi et de la MONUSCO doit être constitué et déployé par le secrétariat EAC d'ici le 28 février prochain avec des membres des États partenaires. Il a été clairement souligné que le dialogue doit s'engager pour que les parties belligérantes recherchent des solutions politiques au conflit. Cette réunion a également décidé que le retrait du M23 s'échelonnera sur une période de 30 jours, les jours J étant fixés au 28 février 2023. Ce document retrace également un nouveau calendrier du retrait du M23, mais aussi du repositionnement de la force régionale. C'est ainsi que le Burundi va se déployer à Sake, Kiroliure et Kichanga, tandis que le Kenya va se déployer à Kibumba, Rumangabo, Tongo et Kishishe. Pour sa part, le Sud-Soudan va se déployer à Rumangabo et co-localisé avec les contingents kenyans. L'Ouganda va se déployer à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru et la région de Mabenga. Pour terminer, il est spécifié que la force de l'EAC doit signaler toute violation du cessez-le-feu sur le terrain.
Réagissant à la publication du communiqué justement des chefs d'état-major de l'EAC, de la force de l'EAC, le gouvernement congolais affirme qu'il va analyser ce document minutieusement et donnera sa position en temps opportun. Mais d'ores et déjà, il semble que Kinshasa n'est pas d'accord avec ce document. Pour vous en convaincre, je vous propose de suivre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui s'exprimait au cours d'un point de presse conjointement animé hier lundi dans la soirée avec son collègue Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. On l'écoute dans cet extrait proposé par Pelé Kipela.
Tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale, de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé. Et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas de dire son mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié par le secrétariat général de l'EAC, Patrick Muyaya, mon collègue le ministre, sait que c'est le deuxième coup qu'on nous fait.
Bien sûr.
On se met d'accord, on s'amuse à sortir des choses sous lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc, soyez rassurés que nous suivons ça avec beaucoup d'attention.
Nissé Mogendi, vous êtes professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Vous êtes aussi directeur du Bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Que pensez-vous de la réaction du gouvernement congolais sur les décisions prises par les chefs d'état-major de l'EAC?
Ben, quand j'entends cela, ça me désole évidemment parce que il semble ne pas être content d'un communiqué et d'une séance à laquelle, pourtant, une délégation congolaise a participé. Et alors, moi, je reviens un peu à ce que j'avais dit. Je me souviens avoir déjà exprimé ici mon pessimisme par rapport à cette mission, à ce déploiement de l'EAC en RDC, par rapport au recours de la RDC à cette force de l'EAC, force entre guillemets, parce que à l'époque je disais que c'était une naïveté et que je ne pensais pas que les Kenyans allaient entrer un jour en guerre contre le Rwanda sur le territoire congolais et que logiquement ils trouveraient un arrangement pour retarder les choses. Et donc lorsque moi je lis c'est communiqué de la séance qui s'est tenue dernièrement à Nairobi, ça me confirme dans mon pessimisme. Et donc, par rapport au contenu du communiqué, je ne suis pas surpris. Mais je suis surpris de la réaction du gouvernement congolais. En effet, ce communiqué montre à nouveau que la RDC a confié le règlement de ses problèmes sécuritaires à autrui. Cet autrui, c'est l'EAC, y compris le pays qui l'accuse de l'agresser, ça veut dire le Rwanda, parce qu'une délégation de généraux rwandais a participé et a même signé. Donc, c'est un. Deuxième chose, je réalise dans la réaction du ministre congolais des Affaires étrangères, évidemment, que la RDC a été isolée dans ce forum. Donc, nous avons participé à travers nos généraux, mais ils ont été marginalisés. Donc, ils n'ont pas pu faire passer la voix de la RDC. Et c'est comme ça qu'à leur retour, le ministre réagit par sa position un peu nuancée.
Pourquoi avoir signé un tel document si on n'est pas d'accord avec les recommandations de la réunion des chefs d'état-major? Est-ce que notre chef d'état-major est obligé de signer un tel document? Ou bien il a signé sans avoir l'avis ou l'accord de sa hiérarchie?
Bon, je ne pense pas qu'il n'ait pas lu l'anglais, parce que c'est écrit en anglais, mais je pense qu'ils ont lu quand même, ils ont lu avant de valider et de retourner, et qu'ils ont compris le contenu. Alors, ici, pour le cas d'espèce, on prévoit un cessez-le-feu. Sur le territoire congolais, le cessez-le-feu va empêcher à la RDC d'occuper les zones, parce qu'on semble gâter le 1-23. On organise un retrait civilisé du 1-23, et j'imagine que ce retrait ne se fera pas sans garantie. Le 1-23 cherchera certainement à avoir des garanties avant de se retirer, s'il accepte de se retirer. Et s'il n'y aurait pas de garantie, ça serait surprenant, parce que même dans ce cas, ça ne serait pas glorieux pour la RDC. Et le deuxième scénario, c'est que le 1-23 refuse de se retirer. Et dans ce cas, que ferait la RDC si elle a mis toute sa confiance dans les troupes de l'EAC? Donc, moi, j'ai toujours pensé que la meilleure solution pour la RDC, ça aurait été de s'armer et de lutter contre cette agression et de pouvoir participer à ce genre de forum seulement à position de force, plutôt que d'y aller à position de faiblesse et de se voir imposer certaines décisions, parce que ça semble être le cas. Hein. Le gouvernement n'est pas d'accord avec ce qui a été décidé, ça veut dire que c'est des résolutions que l'EAC impose à la RDC. Et si la RDC y allait à position de force, peut-être qu'elle allait inviter les autres forces de l'EAC de l'Ukraine commune ici à Kinshasa, plutôt que d'être invité à Nairobi. Donc tout ça, c'est autant d'indices qui montrent que nous y allons à position de faiblesse, et lorsqu'on participe à une négociation à position de faiblesse, naturellement, on se voit imposer des points de vue, on se voit imposer des décisions qui, pour le cas d'espèce, plaisent certainement au M23, parce qu'il se dit, ok, enfin, on peut avoir une opportunité de négocier et de faire entendre notre lutte. Au lieu de craindre que la RDC impose un 23 de payer toutes les pertes qu'il a fait subir, par exemple, à l'État congolais, lors de son agression passée et lors de l'agression actuelle. Personne n'a jamais demandé un 23 de payer, par exemple. Donc, vous comprenez que pour moi, la conclusion ou les décisions de ce sommet de chef d'état-major est tout à fait logique. Il entre en harmonie avec le tout début du processus, parce qu'on y est allé en position de faiblesse.
Mais professeur, on a l'impression que toutes les parties n'ont pas la même compréhension des documents qu'elles signent. D'un côté, on a l'EAC qui a sa compréhension des documents signés. De l'autre côté, la RDC qui a aussi sa compréhension. Et du coup, ça, c'est un peu comme une sorte de cacophonie.
Ouais, et ça signifie que la RDC doit maintenant lutter aussi. Il doit maintenant entrer aussi en lutte avec l'East African Community. Parce que l'East African Community développe maintenant des points de vue qui n'arrangent pas la RDC. Donc, c'est s'ajouter peut-être... Plutôt que de s'ajouter un allié, on s'ajoute un adversaire de plus.
Professeur Sobert Aguenonga, vous êtes professeur à l'Université de Kisangani et Université catholique du Congo. Vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Professeur, comment vous analysez cette situation? D'un côté, on a le communiqué de la réunion des chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC qui font des recommandations sur plusieurs choses, notamment un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties et le retrait de tous les groupes armés locaux et étrangers, déploiement de la force dans certaines localités du Nord Kivu. Donc chaque pays qui fait partie de l'EAC aura des localités qu'il va contrôler. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement congolais qui semble ne pas comprendre très bien ce qui se passe au sein de l'EAC. Le gouvernement qui est un peu surpris de certaines décisions prises au niveau de l'EAC.
Oui, je tiens à préciser d'entrée de jeu que ce n'est pas le premier acte signé par la CIAC. Et on se rappellera en novembre 2022, si ma mémoire ne me trahit pas, il y avait toute une feuille de route qui était signée à Luanda. Et cette feuille de route prévoyait clairement le retrait du M23 de toutes les entités qui l'occupaient et le parti prenant à ses sommets, c'était même réservé le droit de recourir à la force dans la mesure où le M23 ne se pliait pas à la décision de Luanda. Malheureusement, ce texte aussi a énormément souffert de la mise en œuvre et ensuite on est passé à d'autres arrangements dans celui auquel on vient de faire allusion, réunion des chefs d'état-major de l'EAC, mais à mon humble avis, c'est quand même une réunion de trop, parce que l'expérience démontre que toutes les résolutions antérieures qui ont été prises n'ont pas du tout été respectées. Et aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que si on vous lisait minutieusement le compte rendu de la réunion de chefs d'état-major de l'EAC, eh bien, aujourd'hui, l'EAC semble davantage privilégier le dialogue que le recours à la force. C'est ce qui surprend. Et en même temps, si l'on regarde une autre résolution qui a été prise selon laquelle le retrait du M23, on devrait suivre évidemment du déploiement des contingents de contingents de l'EAC, comme votre correspondant l'a rappelé, notamment le Soudan du Sud qui doit déployer son contingent, qui n'est pas jusque là, en le sol congolais. Et du coup, moi je m'aperçois que il y a une certaine incohérence dans cette démarche, mais cette incohérence a levé le voile sur une capacité de l'EAC de prendre des résolutions qu'elle soit à mesure de mettre en œuvre, de mettre en application.
Professeur Chaubert Aguenonga, vous l'avez dit, pour l'EAC, les partis doivent s'engager au dialogue pour rechercher des solutions politiques au conflit du côté du gouvernement congolais. On continue d'insister que le mandat de la force de l'EAC est offensif. Deux compréhensions différentes du mandat même de la force de l'EAC en RDC.
Évidemment, le gouvernement s'attendait à ce que la force régionale de l'EAC puisse faire recours à la force pour mettre un terme à l'activisme du M23, en ce qui n'a pas pu être le cas. Mais là aussi, je crois que le gouvernement s'est trompé quasiment parce qu'il n'est pas du tout envisageable que le Kenya, qui est un partenaire du Rwanda, puisse utiliser la force contre le M23 qui est soutenu par le Rwanda. Ça, c'est un scénario que l'on ne peut pas du tout envisager. Et je pense que cette déception qui a conduit aujourd'hui le gouvernement congolais de plus en plus à s'éloigner de l'EAC. On a vu le chef de l'État congolais, après le sommet de Burundi, il s'est rendu tour à tour en Angola et en Afrique du Sud. C'est comme l'impression qu'il cherche plutôt à renforcer les relations avec la SADC et non pas avec l'EAC, qui n'a rien foutu jusque-là sur le terrain. Mais c'est le spectacle le plus désolant, et je pense que ça c'est quelque chose que le gouvernement doit éviter. La dernière réunion qui a été sanctionnée par les documents, la résolution que nous avons vue, a connu la participation du chef d'état-major général de FRDC, le général Christian Chiwewe, je pense, qui a d'ailleurs signé, il a apposé sa signature sur ce document. Mais il est déconcertant qu'on apprenne que le gouvernement congolais n'est pas du tout d'accord avec le document qui a été signé. Ça montre quelque part que le gouvernement congolais lui-même, il n'est pas constant, il n'est pas cohérent dans ses démarches. Mais revenant sur la démarche politique, l'EAC est en train de privilégier, cela pourrait bien se situer aux antipodes de l'approche du gouvernement. L'on se rappellera que le gouvernement avait exclu de la table des négociations le M23, qu'il a tout de suite qualifié de mouvement terroriste. Alors, je pense qu'aujourd'hui, demander au gouvernement congolais de négocier avec le M23 pourrait bien s'avérer comme une reculade du gouvernement congolais vis-à-vis du M23. Ça pourrait bien apparaître comme une débâcle du gouvernement congolais.
Et qu'est-ce que le gouvernement devrait faire dans ce cas, puisque l'EAC, cette organisation à laquelle la RDC a recouru pour venir mettre fin au mouvement rebelle M23, n'a pas le même entendement que le gouvernement congolais. Qu'est-ce que la RDC devrait faire? Se retirer de l'EAC et se tourner vers la SADC, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure?
Je pense que cette approche, à mon avis, est très... Et pourrait aussi être inefficace parce que le gouvernement congolais doit compter sur le FRDC et non pas sur les forces étrangères. Je pense que c'est de ce point de vue que le gouvernement congolais est en train de pécher. Or, le diagnostic sur le terrain démontre que le FRDC pourrait bien évidemment être à mesure de faire face au M23. Mais le drame, c'est que nous avons affaire pratiquement à une armée qui est mal organisée, à une armée confrontée au problème de la logistique, à une armée qui est confrontée à la prise en charge militaire, voyez-vous. Donc, à mon humble avis, l'approche la plus efficace, la plus idoine, devrait consister pour le gouvernement congolais d'investir dans le FRDC, parce qu'il n'y a que cette armée qui a pour mission de garantir l'intégrité territoriale. Et en même temps, sur le plan diplomatique, là aussi, nous constatons que le gouvernement congolais semble incohérent. Tantôt, il faut se tourner vers l'EAC pour résoudre le problème sécuritaire. Tantôt, il faut se tourner vers la SADC, etc. Le gouvernement congolais devrait se doter évidemment d'une approche diplomatique cohérente qui puisse amener la communauté internationale d'exercer le maximum de pression sur les puissances qui soutiennent le M23 et pourquoi pas sanctionner ces puissances afin qu'elles retirent leur soutien au M23.
Maître Rigel Miviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, la réunion des chefs d'état-major généraux des forces de défense de l'EAC qui s'est tenue à Nairobi le 9 février dernier a publié un plan de déploiement de la force régionale sur le territoire congolais et selon ce plan, le Burundi va se déployer à Sake, Kirolirwe et Kichanga, le Kenya va se déployer à Kibumba, Rumangabo, Tongo et Kishishe, l'Ouganda va se déployer à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru et la région de Mabenga, enfin le Sud-Soudan va se déployer à Rumangabo et colocaliser avec le contingent kényan. Beaucoup de Congolais ne sont pas d'accord avec cette décision des chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC et même le gouvernement n'est pas d'accord. Votre analyse?
Oui, tout d'abord, il faut dire que ce n'est pas surprenant parce que il me semble que cette feuille de route du commandement de la force régionale, si on peut le dire ainsi, est une suite logique du communiqué de Bujumbura, dans lequel il était déjà prévu qu'il y ait de nouveaux contingents qui vont arriver et que les déploiements forcé, même si à ce moment-là, on n'a pas détaillé les autres, ce qui a été laissé aux spécialistes, ça veut dire les chefs d'état-major des différents pays. Et on a vu la même controverse qu'on a eue au niveau du communiqué de Bujumbura où la RDC n'était pas d'accord pour dire les choses telles qu'elles sont. Et elle a été obligée de faire son propre communiqué pour se distancer dans une certaine mesure de ce qui a été dit à Bujumbura. En même temps, aujourd'hui, le ministre il vient mettre de réserve, alors même que la RDC a encore été présente dans ses assises. Donc, en vrai, on voit que la RDC est mise en minorité dans toutes ces discussions et les intérêts du pays semblent ne pas être la priorité des autres. Et je pense que c'est ce qui explique le réserve du gouvernement actuel. Mais en même temps, je pense qu'ils essayent aussi de ménager l'opinion parce qu'ils savent que toute mesure qui n'est pas militaire, opérationnelle, qui n'invite pas les contingents à attaquer directement le M23, reste quand même impopulaire dans un contexte où il y a de villes mortes, où il y a de manifestations contre l'inefficacité ou disons l'inactivité de cette mission. Donc on a comme l'impression que le Congo et les autres pays ne sont pas en train d'analyser le même fait ou du moins ils ne sont pas en train de donner le même remède au problème. Et malheureusement, ça risque de rendre encore la situation plus compliquée parce que, comme c'est dit encore dans les documents, on dit clairement qu'on privilégie la négociation. Mais la négociation signifie quoi? Signifie qu'il y ait de pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23. Et je ne vois pas cela arriver avant la date butoir qui a été précisée dans le document pour le début du retrait du M23 des zones qui seront ensuite occupées par des contingents d'autres pays. Et en plus ça c'est très compliqué parce que dans ces zones-là, il y a même des zones où les M23 ne vont encore, notamment Sake. À Sake, pour le moment, c'est les FARDC qui occupent la zone. Et donc, on ne sait pas, est-ce que ça signifie que les FARDC devront quitter Sake pour qu'il y ait une zone temporaire occupée par des contingents burundais. Est-ce qu'il faudra que le FRDC cohabite avec la force régionale dans ces zones-là? C'est pas clair et on ne comprend pas l'utilité et politique et militaire de cette nouvelle subdivision.
Alors certains Congolais estiment que la RDC devrait carrément quitter cette organisation parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Ces pays ne sont pas là pour aider la RDC, mais plutôt toutes les décisions qu'ils prennent, c'est en faveur ou au profit du M23.
Oui, je vais laisser aux deux professeurs que je salue en passant peut-être mieux répondre à cette question, mais ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas que ce soit utile ni pertinent pour l'instant que la RDC quitte sous le choc l'EAC, mais il peut juste se rendre à l'évidence qu'en fait ses intérêts ne sont pas mieux défendus là-bas et qu'il aille le défendre ailleurs. Ça semblait être le sens du voyage du président vers la zone SADC. Donc peut-être que il faut que le gouvernement congolais puisse revoir sa stratégie et voir où est-ce que ses intérêts sont mieux défendus.
Professeur Nissé Mohendi, ces Congolais qui demandent au gouvernement de quitter cette organisation à cause de l'hypocrisie qui y règne, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la RDC devrait se tourner vers la SADC?
Alors les Congolais qui les disent ainsi, ils expriment leur déception vis-à-vis de l'East African Community. Mais je dois leur dire ici que l'adhésion à l'East African Community est à séparer avec le fait pour la RDC de compter sur l'East African Community pour régler ses problèmes sécuritaires. Donc la RDC n'a pas mal fait d'adhérer à l'East African Community, étant donné que toute la zone économique est de la RDC est orientée vers l'Afrique de l'Est, mais la RDC a mal fait de compter sur l'East African Community pour venir régler ses problèmes sécuritaires, au lieu de compter sur elle-même. On n'adhère pas à une organisation pour quémander de l'aide. Je veux une RDC qui adhère à une organisation pour l'instrumentaliser, pour l'utiliser comme un nouvel espace de pouvoir où le pays peut aussi faire avancer ses intérêts, plutôt que d'y aller en position de demandeur. Et puis la RDC est membre de la SADC, donc quitter l'East African Community pour s'orienter vers la SADC, c'est enfoncer une porte ouverte. La RDC est membre de la SADC et en tant que membre, elle peut partager ses problèmes avec les autres membres de la SADC. S'ils sont intéressés, ils peuvent toujours aider comme ils l'ont fait. Ils l'ont fait pendant la deuxième phase de la guerre, donc la guerre du RCD et même avant. Donc dernière phase des affrontements entre 98 et 2003. On a vu des États de la SADC se prononcer et venir à la rescousse de la RDC. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie étaient là. Donc, la RDC, peut-être qu'elle aurait pu s'orienter vers la SADC plutôt que de compter sur l'East African. Si elle a adhéré à l'EAC dans l'espoir que l'EAC viendrait régler ses problèmes sécuritaires avec la R23, en tout cas, elle s'est trompée.
Professeur, restons en ligne. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Je suis Monsieur Martin Lolo Bakonga, je vous appelle depuis Kinshasa. Je suis triste de remarquer que le Congo, mon pays, est devenu comme un butin où les gens devraient se partager comme le fait cette communauté de triste mémoire et assez. Pour cela, je demande à nous Congolais de nous prendre en charge. Il s'agit de notre pays, sans cela, le pays risque de partir.
Le pays risque de partir, professeur Nissé Mohendi. Cet auditeur craint, avec l'arrivée de toutes ces troupes dans le Nord Kivu.
Oui, l'auditeur craint un scénario catastrophe. Le troisième, parce que j'ai présenté deux scénarios. Le scénario où le M23 accepte de se retirer, le scénario où il refuse de se retirer. Mais le troisième scénario, c'est vraiment un scénario catastrophe. Le scénario où la mésentente entre les FRDC, donc la RDC et les États de l'East African Community conduisait à un durcissement des relations. Et le scénario, c'est lequel en fait? Le scénario catastrophe ici, c'est celui où les troupes de l'East African Community refuse de se retirer à la demande des FARDC, à la demande du gouvernement congolais plutôt. Et dans ce cas, effectivement, la RDC est en position de ne pas avoir les moyens de chasser des forces, des troupes de l'État africain commun ici qu'elle a invité de bonne foi.
Professeur Chobert Hagenonga, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Moïse Angui, depuis la ville de Goma, en province du Nord Kivu, activiste et militant de la lucha. Je suis très sceptique quant au strict respect des résolutions prises à ce 1e sommet de Bujumbura, car il n'en est pas le premier. Nous sommes partis de sommet en sommet et le M23 RDS ne cesse de plus saboter tout, en faisant preuve de mauvaise foi, disant n'avoir pas été à tort associé à ces pourparlers. À mon avis, le CCFP, dont le chef d'État de l'EAC, East African Community, en et continue à faire allusion, n'est pas et ne sera jamais respecté par le RDF M23 de Paul Kagame. Pour ce qui concerne l'attribution des différentes zones opérationnelles aux différents pays composant la communauté de l'East African Community, je crains pour ma part que cela conduise d'ores et déjà à la balkanisation de notre pays. Comment comprendre que le chef d'État de l'EAC et notre gouvernement ne veulent pas s'incliner au devant de la volonté du souverain primaire? Il y a du flou.
Professeur Chobert Hagenonga.
Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que la RDC est perdument trompée à penser que l'action à la crise sécuritaire à l'Est viendrait de l'EAC. Et là aussi, je me permets de dire que la solution à la crise sécuritaire à l'Est ne viendra pas non plus d'autres partenaires, notamment en la SADC, mais la solution viendra de la République démocratique du Congo elle-même, parce que le constat que nous faisons, à force évidemment de s'en prendre ou de s'en remettre à l'EAC, c'est comme si on avait aliéné la souveraineté de la RDC, c'est comme si on avait sous-traité la sécurité de la République démocratique du Congo, ce qui est totalement inadmissible. Évidemment, comme je l'avais dit, on a volé de sommet en sommet et aucune des résolutions de ces sommets n'a été ni mise en œuvre ni respectée par le M23. Par contre, en ce que prévoyait la feuille de route de Luanda, le M23 devrait se retirer des positions qu'il occupait déjà à l'époque. Mais à la surprise générale, on a constaté que le M23 n'a cessé d'élargir son périmètre d'action. Le M23 a occupé des entités qui n'étaient pas dans sa zone d'influence, notamment Kichanga. Donc au regard de ce qui précède, il est hors de question de croire à la police du M23, ça c'est une évidence. Et ensuite, il est aussi hors de question de penser que la solution viendra de l'EAC. Et tout ce qui pense que la solution viendra de l'EAC, il se trompe éperdument. La République démocratique
du Congo. La solution viendra d'où, professeur? Selon vous.
Dit, la solution viendra de nos institutions. L'impression que j'ai, c'est que le gouvernement congolais ne dispose pas d'une politique cohérente en matière de la défense, de la sécurité. Et c'est là où le bas reste. On a perdu inutilement du temps depuis longtemps. Si le gouvernement congolais avait la volonté, évidemment, de contribuer à la réforme des FRDC, à doter les FRDC de moyens qui s'imposent pour assurer la mission, pour assurer la sécurité à l'Est, le gouvernement congolais l'aurait fait. On a même levé l'embargo sur les armes qui pesaient sur la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo entend pour, évidemment, restructurer la chaîne de commandement? D'abord, tu poses problème parce qu'il y a une désorganisation absolue à ce niveau. Il y a aussi la déficience en termes de logistique. Il y a aussi la prise en charge qui fait défaut. On voit des militaires qui sont au front en train de se plaindre du fait qu'ils sont en cours de ration. Ils manquent presque tout et on ne peut pas faire la guerre de cette manière-là. Alors, il y a l'autre question fondamentale qui doit être soulignée, c'est la question de la divergence même d'intérêt. Donc le pays membre de l'EAC ne partage pas le même intérêt que la République démocratique du Congo. Je le rappelle depuis très longtemps, la vision du Kenya n'était pas celle d'affronter militairement le M23, mais la vision du Kenya, c'était plutôt celle de jouer à une force d'interposition. Et c'est sûr que c'est justement en sous cette position que le Kenya est en train de camper aujourd'hui. Et par ailleurs, il faut aussi savoir que tous les contingents qui ont été déployés en République démocratique du Congo n'ont pas reçu de financement externe. Donc tous ces contingents dépendent évidemment de pays contributeurs. Et nous savons très bien que les pays contributeurs de ces troupes aussi ont des difficultés de point de vue financier. Ils n'ont pas tous les moyens pour mener une mission en sécuritaire de cette envergure-là. Donc si l'on s'en tient à toutes ces variables-là, il faut pas s'attendre à ce que le PNC puisse en rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Maître Rigel Miviri, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Luena.
Charles Mpoudika à Luena dans la province du Haut-Lomami. Nous comprenons que la sécurité de notre pays est maintenant sous traitance des armées étrangères. Ce qui reste à savoir est où seront les positions des FARDC et quel rôle vont-ils jouer dans ce partage du gâteau?
Maître Miviri, finalement les FARDC dans tout ça, elles deviennent quoi?
C'est la grande question en fait. Si des États étrangers, des armées étrangères doivent occuper des pans entiers du territoire où ils vont faire une sorte des zones tampons, il faut se dire qu'en fait, il y a déjà un problème avec l'armée congolaise qui, en premier lieu, doit assurer la sécurité de l'État et de l'intégrité du territoire. Donc, c'est la question que je me posais aussi déjà de le départ sur des zones où les FARDC sont encore là, où il n'y a pas le M23, mais où il y aura une armée de plus ou peut-être de trop dans la zone. Donc oui, surmilitarisation, FARDC, et le risque, c'est de faire en sorte qu'il y ait un peu une situation où le FARDC pense que les autres vont faire à leur place, et ça va le rendre peut-être encore plus attentiste et peut-être moins efficace, même là où ils étaient encore. On a vu la même situation avec la présence de la MONUSCO, où voilà, il y avait une sorte de bouc émissarisation de l'autre. Donc, quand tel ne fait pas son rôle, il dit c'est à cause de l'autre, et voilà. Donc, il y a toujours eu cette analyse-là de dire que tant que l'armée congolaise ou l'État congolais en général aura d'autres personnes avec qui il partage les attributs régaliens, il ne cessera pas de se dédouaner de ses responsabilités. C'est dommage et ça ne vient pas renforcer l'armée qui était déjà sur une longueur de faire des efforts pour se réformer et se renforcer. Mais là, je pense que ça va encore faire moins du bien à toutes ces réformes qui ont été entreprises.
Nous sommes à la fin de notre émission. On va conclure. Maître Rigen Miviri, le document des chefs d'état-major des forces de défense de l'EAC insiste sur le dialogue qui doit s'engager pour que les parties belligérantes recherchent des solutions politiques au conflit. La RDC devrait dialoguer avec qui? Le Rwanda ou les M23?
En tout cas, je pense que c'est le gouvernement congolais d'abord qui doit nous répondre à cela. Comme ils ont dit qu'ils vont analyser en profondeur les documents, ce qui est d'ailleurs difficile à comprendre parce qu'ils ont participé à ces assises et ils sont censés avoir participé à la discussion avant d'apposer la signature. Donc c'est à eux de nous dire avec qui on les a demandé de dialoguer. Et donc je pense que la population congolaise devrait être aussi exigeante et demander des comptes d'abord au gouvernement congolais qui est en train de participer à ces assises et qui semble ne pas reconnaître ce qui en sort.
Merci, Maître Rigen Miviri, professeur Nissé Mouhendi, professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Vous êtes aussi directeur du bureau centre d'études sur la paix et la sécurité. Comment vous entrevoyez la suite des événements?
Le gouvernement congolais doit comprendre que nous, Congolais, avons l'obligation de gagner cette guerre, de la gagner militairement. Et pour ça, Ce gouvernement doit commander des armes, comme il n'y a plus d'obligation de notification. Donc, on peut commander des armes même à crédit. C'est cela qui va nous faire respecter dans la région et nous éviter des humiliations dans les sphères diplomatiques et des humiliations sur notre propre territoire. Parce que quand un groupe armé vient s'embarrer d'un camp important de Lumangabo, qui avait pourtant fourni les bérets verts qui ont dérouté le FPR lorsqu'il a osé attaquer le Rwanda en 1990, vous comprenez qu'il y a eu un recul énorme par rapport à notre position dans la région.
Merci, professeur Nissé Mohendi, professeur Chobera Genunga, professeur à l'Université de Kisangani et Université catholique du Congo. Vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, des géopolitiques et des sociologies militaires. Votre conclusion par rapport à cette situation que cette partie de la RDC est en train de vivre actuellement avec la présence de la force de l'EAC dans le Nord Kivu, une présence qui ne rassure pas la population, une présence qui, selon certaines personnes, font les choses au profit du M23.
L'histoire nous rappelle très clairement qu'en 2013, ce sont les FRDC qui ont battu à plat couture le M23. Et nous devons nous inspirer parfois aussi de l'histoire. Les FRDC sont à mesure, je le souligne, de mettre un terme à l'activisme du M23. Mais le drame, c'est qu'il y a un dysfonctionnement total, absolu au sein de notre armée. Il y a la désarticulation de la chaîne de commandement. Il y a le problème de logistique qui se pose avec acuité. Et d'un point de vue diplomatique, le gouvernement congolais n'a pas réussi à obtenir la condamnation à la fois du M23 et de ses mentors. Je pense que l'avenir de la guerre doit se jouer plutôt sur la réforme, sur l'amélioration, n'est-ce pas, de la capacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, c'est très bien si le chef de l'État congolais voudrait peut-être trouver d'autres partenaires tels que le pays membre de la SADC. Il est en droit de le faire, mais je pense que cette propension a toujours compté sur les autres, ne fait que sous-traiter, ne fait qu'aliéner la souveraineté, la sécurité même de la République démocratique du Congo. Je souligne deux aspects des choses. Il faut donner le moyen au FRDC, il faut restructurer le FRDC, il faut aussi évidemment revitaliser la diplomatie de la République démocratique du Congo pour permettre à ce que tous ceux qui soutiennent le M23 soient condamnés, ils soient sanctionnés, qu'ils réparent justement tout le préjudice qu'ils ont causé à la République démocratique du Congo. Et ça doit se jouer sur le plan diplomatique, mais nous devons aussi gagner la guerre militairement. Parce que si nous ne parvenons pas à gagner la guerre militairement, ça va donner l'impression du fait que nous avons capitulé devant le M23. Or, la République démocratique du Congo n'a pas droit de capituler devant le M23.
Merci, professeur Chobera Genunga. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Dola Madimba qui a réalisé cette émission. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Nsiala. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.